C'était la première carte postale sonore de cette émission Radioactive Campus et Béton en partenariat avec Désir Désir en direct de la Bibliothèque Centrale. C'était Calou de Daniel Bégade. Merci Daniel qui était présent pour nous présenter ce podcast. Comme l'a dit Mickaël, il y a quelques instants, le festival Désir Désir est né de la volonté des cinéphiles, de cinéphiles, de rendre visibles les problématiques LGBTQI+, et d'échanger sans tabou sur des sujets toujours d'actualité, mais qui évolue au fil des années avec la société. Certains questionnements apparaissent, se retrouvent sur le devant de la scène politique, quand d'autres doivent encore jouer des coudes. La transidentité est l'un des sujets les plus mal connus, car le moins et le plus maladroitement abordé par les médias français, et encore méprisé par nos dirigeants aujourd'hui. Alors ce soir à 20h30 aura lieu la diffusion du documentaire « Je veux juste être heureux, heureuse » d'Aloïs Jackson et Zoé Platon sur la plateforme en ligne La 25e Heure. C'est gratuit et à l'issue de la séance, il y aura un débat avec les réalisateurs, le réalisateur et la réalisatrice. La particularité de ce film tient en ce qu'il est fait par des personnes trans pour tout le monde et non par des cis pour des cis, pour reprendre une phrase du film. Les intervenants et intervenantes se réapproprient une parole dont ils et elles ont été dépossédés par de pseudo-spécialistes autoproclamés. Nous avons pu poser quelques questions, Arnaud et moi, aux réalisateurs en visio en amont de cette émission. Et la première chose que nous avons voulu savoir, c'est d'où est venue l'envie de réaliser ce film.
J'ai fait mon coming out pendant le premier confinement, donc en mars 2020, enfin quelques mois après mars 2020. Et,
en mai, en fait, il y a un an, je crois.
Ouais. Ouais, ça va faire un an. En faisant des recherches pour savoir ce que c'était, parce que comme vous l'avez dit, il y a un gros manque d'informations sur ce sujet, je me suis rendu compte que en termes de documentaires, il y avait beaucoup de documentaires qui étaient faits par des personnes qui ne sont pas concernées, et qui du coup ne l'appréhendent pas de la même manière que les personnes transgenres, et qui ne comprennent pas forcément comment en parler, quel terme utiliser, quel terme ne pas utiliser, la manière de poser les questions pour que ça soit le plus respectueux possible, et sans parler des documentaires qui étaient tout simplement irrespectueux. Zoé et moi, on était dans la même classe en Cagne et en Hippocagne, donc on se connaît depuis 3 ans. On est dans la même licence cette année à l'université Paris 8, et on s'est inscrit au même cours. C'était un atelier documentaire dans lequel on devait, à la fin du semestre, proposer un documentaire. Et quand le professeur nous a dit qu'on avait la liberté de choisir nos sujets, Zoé et moi, on s'est regardés. J'ai tapé rapidement sur mon ordinateur sujet transidentité, et elle a hoché la tête.
C'est juste comme ça que ça s'est passé. En fait, j'avais même pensé avant, je me suis dit, tiens, mais attends, je suis avec Aloïs. Enfin, voilà, c'est déjà un sujet. Moi, je ne m'étais pas autant informée qu'Aloïs en allant voir s'il y avait des documentaires, etc., qui étaient faits sur la question, mais j'en connaissais pas. Effectivement, en le faisant après, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tellement qui, en France en tout cas, qui étaient faits par vraiment au moins une personne trans, quoi. Voilà, donc.
Et du coup, comment vous avez sélectionné les personnes qui interviennent dans le documentaire ?
Bah, du coup, j'ai posté un message sur Twitter en disant que j'allais faire un documentaire sur la transidentité. Les conditions, c'était d'être à l'aise pour en parler, de ne pas se mettre en danger, parce que pour beaucoup de personnes trans, elles ne peuvent pas faire leur coming out, elles ne peuvent pas dire qu'elles sont trans parce que leur famille pourrait les rejeter ou ça pourrait poser beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de morts causées par la transphobie. Donc je voulais surtout pas mettre les participants en danger et qu'elles m'autorisent à utiliser leur image. Et du coup, c'était principalement des gens que je connaissais un peu déjà avant, beaucoup d'amis. On a même des gens qui sont arrivés en cours de route, comme... comment il s'appelle ?
Le copain d'Oscar.
Isaac.
Oui, Isaac. C'est Isaac qui... puisque Oscar, donc, qui était un ami qui a participé au documentaire... était en train de faire les visuels avec nous. Et à un moment, Oscar est rentré dans sa chambre, il lui a demandé ce qu'il faisait, et il est venu. puisque Isaac est aussi un transgenre.
Ok, c'est vrai que c'est pour des raisons de sécurité, c'est indispensable que les personnes ne se mettent pas en danger. Mais ça doit réduire à pas mal le nombre de personnes intervenantes.
Oui, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'à l'époque, j'avais pas énormément de visibilité sur mon compte Twitter. J'en ai beaucoup plus, et du coup ça n'a pas touché autant de gens que j'aurais voulu. Donc il y a beaucoup de gens qui ont découvert le projet une fois qu'il a été diffusé, qui auraient bien voulu participer.
Après, du coup, ça aurait peut-être fait trop de gens, je pense, avec la visibilité que tu as maintenant. Il y aurait beaucoup de personnes qui se seraient proposées, et là tu étais déjà un peu dans la communauté, enfin j'aurais peut-être te laissé en parler, mais que sur Twitter, y a beaucoup d'entraide entre les personnes trans. Du coup, tu connaissais déjà un certain nombre de personnes trans à ce moment-là que tu n'avais pas forcément rencontrées dans la vraie vie parce que vous communiquez par là beaucoup, j'ai l'impression.
Je me demandais aussi comment vous aviez fait la sélection des conversations. Est-ce que vous avez défini les différentes thématiques avant? Voilà, le film, il a quand même une structure qu'on sent bien. Ou est-ce que ce sont justement des thématiques qui ont émergé ensuite? Comment vous avez fait la sélection des sujets et des conversations que vous avez gardées pour le film?
On a fait une petite liste de choses dont on voulait parler, mais en fait, ça s'est fait assez. On n'a pas eu beaucoup de directions à faire pendant les conversations sur Discord. En fait, pour les vidéos individuelles, on leur avait posé des questions. On avait fait une liste de questions auxquelles ils devaient répondre. Et du coup, ils s'étendaient vachement et c'était super intéressant. Donc, tout le monde parle plus ou moins de la même chose. Et ensuite, on a donné quelques directives sur Discord, mais ça s'est fait assez intuitivement. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Louise.
Ouais, on avait découpé les conversations en groupe en disant on va parler de tel thème, ensuite tel thème, ensuite tel thème, ensuite tel thème. Mais en fait, en discutant tous ensemble, ça a vraiment découlé tout seul, assez naturellement. Et au montage, du coup, il a fallu couper beaucoup de choses et savoir choisir beaucoup de choses. Parce qu'à la base, le documentaire devait pas faire plus de 20 minutes. Et le professeur a accepté quand même qu'il fasse 1 heure.
On avait 6 heures
Mais
de rush.
oui, voilà.
Et du coup, justement, même pour passer de 6 heures à 50 minutes, il a dû faire une sélection. Comment ça s'est passé?
On a tout regardé ensemble en prenant des notes. On a essayé de ne pas répéter à ce qui a été dit plusieurs fois. Et on a essayé aussi de faire en sorte que chaque intervenant, chaque personne ait un temps de parole plus ou moins équivalent.
Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était. Dans le documentaire, c'est qu'il y a beaucoup une question. Enfin, le fait de faire ce documentaire, c'est politique en soi, mais la question politique n'est pas abordée frontalement. C'est vraiment des expériences personnelles. Mais quand vous parlez de transition médicale, où il y a des parcours dans le privé en priorité, parce que c'est plus simple, il y a quand même le mot privilège qui est prononcé. Et du coup, il y a aussi tout ce qui est creusé autour de l'État et du service public qui, moi, m'interpelle. Et sans que ce soit complètement creusé, est-ce que il y avait eu des discussions plus poussées là-dessus qui pourraient faire l'objet d'un deuxième film, je ne sais pas. Enfin, c'est des questions qui sont intéressantes, moi, je trouve. En plus, le thème du Festival Désir-Désir, c'est l'intersectionnalité des luttes. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui sont venus dans les conversations que vous n'avez pas forcément pu mettre dans le film?
Je crois que oui. Hein. Je pense que tu t'en souviens aussi à Loïs, mais on avait notamment quand Alexandre parlait du fait qu'il avait pu se permettre, grâce à son travail, de faire un parcours privé, on avait quand même un peu abordé ces questions-là de déroulement de la transition en fonction des classes sociales, que c'était pas toujours évident et que c'était même assez. Je te laisse compléter à Loïs, mais que voilà, que c'était que ça dépendait beaucoup de ça encore et que. C'était aussi à cause de la désinformation qu'il y a autour de ça, etc. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de choses qui sont indispensables pour aller eux.
Je pense que la transidentité, c'est quelque chose qui, étant donné que c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui, enfin n'importe qui peut être transgenre, c'est fondamentalement intersectionnel. De mes grands regrets avec ce documentaire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas une très grande communauté sur Twitter, donc j'ai pas pu toucher autant de gens que je voulais, et du coup, il y a peu de personnes racisées qui ont vu le message et qui ont pu participer. Et la question de classe sociale, donc de privilège, et la question de race, c'est deux choses qui peuvent avoir un grand impact sur la transition des personnes. Et aussi, on a eu une personne transféminine dans le documentaire qui était Luna. On aurait dû en avoir une autre, mais elle n'a pas pu à cause de soucis personnels. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel j'aurais voulu donner un peu plus de place. C'est la transmisogynie qui est très violente et qui est une expérience qui est très différente de celle de l'expérience transgenre pour les personnes transmasculines.
Et je me demandais par rapport justement à cette question de la politique, c'est vrai que dans votre film, vous y abordez les questions de manière plus concrète sur tout le parcours administratif hyper compliqué ou dissuasif. Justement, il y a la question aussi du fait que ça puisse dissuader les personnes parce que c'est extrêmement compliqué. Je me demandais si vous avez été tenté aussi d'aborder la question de l'attitude de l'État et de ceux qui nous gouvernent justement par rapport à la question de la transidentité. Dans ces questions-là, est-ce qu'il perpétue une vieille tradition qui se retrouve aussi dans la culture et dans la représentation, ou est-ce que c'est une incompréhension, est-ce que c'est une volonté de ne pas pouvoir permettre d'ouvrir ces champs en fait?
J'ai l'impression, alors je suis sûrement moins informée qu'à Louis, mais qu'il y a encore dans les institutions et même parmi les personnes qui détiennent un pouvoir législatif, tout simplement, il y a encore un malaise autour de ça, et on remarque parfois des comportements qui sont vraiment une sorte de réticence à s'informer, que j'ai mal à comprendre honnêtement, mais enfin, je suppose que c'est lié à toute l'éducation qu'on reçoit et que la génération précédente a reçue aussi, une volonté de cacher des choses qui ne sont pas considérées comme normales et qui maintenant se traduit par une espèce de réticence à étudier des projets de loi qui sont juste censés rendre la vie plus facile à des gens, en fait. Et en fait, c'est totalement aussi lié... Enfin, c'est... Je dis aussi, mais c'était ça dont j'étais en train de parler, en fait, que personne ne nous apprend ce que c'est. Et les personnes trans dans le documentaire le disent elles-mêmes que... Enfin, je sais plus qui dit ça, plusieurs personnes ont dit ça, je ne savais pas que ça existait, en fait. Ils ne savaient pas ce qu'eux-mêmes étaient. Et donc... des gens qui sont cis, qui se retrouvent à devoir débattre de projets de loi, enfin, des personnes trans au Parlement, il n'y en a aucune, quoi. Et donc, si c'est pas des gens qui ont été éduqués à ça dans des circonstances particulières, bah, ils savent pas du tout par quel bout le prendre, et ils sont un peu... Ouais, c'est... Enfin, je garderai la notion de malaise, j'ai l'impression que... J'ai vu des députés en parler, et ils avaient l'air... ils avaient l'air mal à l'aise, voilà. Donc je trouve ça un peu étrange, mais voilà.
Moi, je dirais qu'au mieux c'est un manque d'information, et au pire c'est totalement du rejet, parce que bah, pareil, j'ai entendu des députés en parler, et en fait ils savaient même pas de quoi ils parlaient. Ça s'entendait dans la manière dont ils parlaient du sujet. Ils s'embrouillaient dans ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ne savaient pas si une femme trans était une personne qui transitionnait du côté masculin vers le côté féminin ou inversement. Parce que du coup, je me suis aussi beaucoup renseignée sur le projet de loi de la PMA, qui du coup a rejeté la possibilité pour des couples transgenres d'avoir recours à la PMA. Et c'était aberrant de voir qu'ils ne comprenaient pas. Fondamentalement, ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Je ne comprends pas comment on peut statuer sur un projet de loi sans savoir de quoi on parle.
Bon, ouais, on sent vraiment un besoin d'informer dans ce documentaire, et ça revient régulièrement. La grande question qui revient, c'est la transition médicale, en fait, qui est un sujet quasi tabou. Et vous décidez quand même d'en parler, ce qui est super. Mais est-ce qu'il y a eu des résistances là-dessus ? Comment vous avez... Ça a été un accord tacite, ou est-ce que vous avez eu dû discuter avant de décider d'en parler dans ce documentaire?
Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur comment aborder le sujet et comment faire pour que ça soit pas intrusif. Bah, forcément, quand on parle de transidentité, de personnes trans, etc., le sujet qui intéresse, entre guillemets, c'est la transition médicale, c'est les changements physiques, c'est... Alors que, pour moi, ce qui me prend le plus d'énergie, c'est tout ce qu'il y a d'administratif, c'est les changements de prénom, c'est de dire aux gens, à chaque fois, aux gens que je rencontre, je m'appelle Aloïs, je me genre au masculin, parce que c'est pas évident pour les autres. Mais ce qui intéresse le plus, quand même, c'est la transition médicale, parce qu'elle a été rendue extraordinaire dans les médias. Du coup, je voulais en parler pour montrer qu'on pouvait en parler différemment, pour montrer que c'est pas non plus le centre de nos transitions, même si pour certains ça l'est, que c'est quelque chose d'important, mais que c'est pas quelque chose de forcément nécessaire. Ellie, par exemple, Elliot, qui s'appelait Elysian pendant le documentaire, qui pour le moment n'envisage pas vraiment de faire une transition médicale, mais qui a fait une transition sociale. Donc c'était pour montrer aussi la diversité de ce que c'est être une personne trans.
Dans la tête des gens, c'est quelqu'un qui a assigné femme ou homme et qui va vers le sexe opposé, en fait, alors qu'il y a tout un spectre au milieu. Ellie, si ma mémoire est bonne, elle se définissait non-binaire. Donc en fait, on n'imagine pas dans notre société qu'il puisse y avoir d'autres... un autre genre que féminin ou masculin. Enfin, c'est plutôt explicité dans le documentaire.
Bah, c'est ce qu'on voulait aussi montrer, même s'il n'y a pas... Ça n'a pas été possible de représenter tout le monde. On voulait avoir une palette de représentations qui montrait autre chose que les gens binaires.
Vous dites dans le documentaire que justement vous n'avez pas forcément à éduquer entre guillemets les personnes cis notamment, mais du coup ce qui pourrait être intéressant c'est si vous avez des références d'œuvres, de livres ou de films, ou même si on a dit déjà auparavant qu'il y en a peu qui vous semblaient pertinentes, mais si vous avez des œuvres que vous souhaitez conseiller pour justement s'informer et s'éduquer.
Alors sur Netflix, il y a Disclosure qui parle de la représentation de la transidentité dans les médias, dans les films et de l'histoire de la transidentité aussi, qui est très bien, assez dur. Enfin, en tout cas, je l'ai vu et ça a été dur pour moi, mais je suis concernée donc. Mais qui est très bien. En termes de recherche d'informations, il y a le Wikitrans, qui est aussi une source qui est très utile, qui offre d'ailleurs un PDF pour les personnes qui ont une personne trans dans leur entourage, pour savoir comment accompagner une personne trans dans sa transition. Et il y a un compte Instagram qui parle de transidentité, notamment de transidentité pour une personne noire, qui est tenue par un garçon de 16 ans d'ailleurs. C'est assez impressionnant de voir tout ce qu'il fait à son âge.
Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
Et d'avoir fait ce film.
Ben merci de nous avoir.
Oui, merci.
Et je voulais ajouter quelque chose. Oui, vous avez dit que c'est pas aux... parce que Alexandre a dit c'est pas aux personnes trans de vous éduquer sur la transidentité. Et pourtant, c'est une personne trans qui a fait ce documentaire. Le sens de cette phrase, c'est au quotidien, arrêtez de nous poser des questions tout le temps, parce qu'on n'a pas forcément la force mentale de le faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce documentaire et que j'essaye de donner des informations le plus largement possible. C'est pour que mes adelfes transgenres puissent dire, j'ai pas la force de t'expliquer en 15 minutes mon existence. Regarde, renseigne-toi, regarde ça, c'est très bien. Voilà.
C'était Aloïs Jackson et Zoé Platon avec qui vous pourrez échanger après la diffusion de leur film Je veux juste être heureux, heureuse, qui aura lieu sur la plateforme en ligne la 25e heure à 20h30 ce soir. C'est gratuit. Michael m'a dit qu'il me reste une trentaine de places à peu près, mais on vous conseille de réserver. Voilà, ça, c'est possible sur le site de Désir Désir. Et aussi, on vous rappelle, mercredi 19 à 20h30 également, gratuit également et sur la même plateforme, en avant-première, No Hard Feelings de Faraz Shariat, primé au Festival de Berlin et au Festival LGBT Inside Out, une fiction interdite aux moins de 16 ans, mais qui a l'air vraiment super. Voilà.